Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Clôture jeudi 25 février dernier du 17e sommet de COMESA, marché commun des États d'Afrique australe et orientale. Les chefs d'État et de gouvernement membres ont convenu de la mise en œuvre de l'union douanière et de l'industrialisation de cet espace en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Et par ailleurs, la RDC est passée à la tête de cette organisation sous-régionale. Comment capitaliser alors ce passage de la RDC à la tête du COMESA? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net et vous pouvez également nous appeler au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Nous disons merci à Pierrot et la Mégie pour la réalisation de cette émission et merci aussi à Jean-Noël Mokondo qui assure la mise en onde de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Ben Kabamba. Voilà, excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Vous êtes nombreux à vouloir souhaiter participer à ces débats. Nous vous rappelons nos numéros de contact, c'est les 081 890 63 15. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à vous tous qui allez bientôt nous rejoindre dans ce débat. Nous avons dans ces studios Monsieur Zéphirin Tshibambe-Djibou, qui est économiste et spécialiste en agribusiness, qui est avec nous et qui va nous orienter, orienter les préoccupations des uns et des autres. Bonjour Monsieur Zéphirin.
Bonjour.
Voilà, vous avez tous, disons, vous avez suivi comme nous l'actualité. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut d'abord se faire une idée comment la RDC est arrivée à rejoindre le marché commun des États d'Afrique et d'Afrique australe?
Oui, d'abord, c'est tout à fait naturel d'abord, la partenance de la RDC au COMESA. D'ailleurs, la RDC est l'un des pays en Afrique qui a cette multi-appartenance. Elle est membre à la fois de la CEAC, de la SADC et du COMESA. Quoique pour le SADC et le COMESA, c'est un cas général de beaucoup de pays du COMESA parce qu'en fait, presque tous les pays de la SADC sont dans le COMESA, excepté pratiquement l'Afrique du Sud, généralement, aussi peut-être Madagascar. Donc, il y a cette problème de multi-appartenance qui vient du fait de notre géolocalisation vraiment très au centre, qui devrait plus nous permettre aussi de jouer ce rôle de charnière entre les différents blocs régionaux africains. Mais l'appartenance au niveau du COMESA vient aussi du fait qu'une grande partie de nos activités sont orientées ou bien vers le pays de la région COMESA.
Alors aujourd'hui, quels sont les avantages que la RDC tire de son appartenance au COMESA par exemple?
Bon, non, les avantages dépendent de ce que nous voulons faire de l'économie. Déjà, quand vous appartenez à un bloc comme celui-là, vous avez l'avantage d'avoir vos produits qui peuvent circuler dans des conditions avantageuses au niveau de ces blocs-là, de pouvoir bénéficier de cette compétitivité au niveau régional. C'est que l'appartenance à un bloc crée d'abord un avantage interne entre différents membres qui veulent promouvoir les échanges entre eux de manière plus dynamique et faire en sorte que ces échanges intracommunautaires puissent être plus avantageux que les échanges avec l'extérieur du bloc. Mais tout dépend alors du niveau d'industrialisation, tout dépend du niveau de vos transactions. Si vous avez un pays à plus des échanges avec le pays hors bloc qui est dans le bloc, il y a moins ou plus à gagner que d'appartenir à ces blocs. C'est que l'appartenance à lui seul ne change pas tout, ça crée une opportunité, mais l'opportunité dépend des orientations que chaque économie fait.
Donc. Voilà, avant d'ouvrir le standard, c'est vrai que les chefs d'État et les gouvernements membres de ces marchés ont convenu, en tout cas lors de ce 17e sommet, de la mise en œuvre de l'union douanière et de l'industrialisation de l'espace en vue d'améliorer au fait les conditions de vie des populations. Mais cela suscite quand même pas mal d'inquiétudes déjà, donc elles craignent peut-être un impact négatif, surtout au niveau de l'emploi, au niveau de cette industrialisation, parce que c'est vrai, notre pays est sous-industrialisé aujourd'hui par rapport à d'autres pays. Est-ce que vous pouvez apaiser peut-être les appréhensions des uns et des autres?
Oui, il y a des appréhensions. Je crois que c'est des appréhensions légitimes. Je crois que ce sont ces appréhensions qui font que la RDC a traîné quand même beaucoup le pas par rapport à d'autres pays du COMESA, notamment au niveau de l'union douanière. Disons qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients. Un des avantages est que quand vous avez évidemment un tissu industriel conséquent, vous pouvez avoir un marché plus large. Vous pouvez vendre dans plus de pays que votre propre pays. Ça ouvre des possibilités à nos propres entreprises. Évidemment, le seul bémol, c'est que nous considérons toujours que nos entreprises sont dans une situation fragile par rapport à d'autres qui se sont plus développés. C'est que la grande crainte est de toujours voir la RDC comme étant un déversoir des autres pays, des autres pays. Mais parce que tout, ça peut être le cas, mais tout dépend parce que cette ouverture aussi crée un dynamisme, permet à ce que notre économie se concentre à des produits où nous avons vraiment un avantage comparatif par rapport à d'autres. Et c'est vrai que nous finirons par importer d'autres pour lesquels nous n'avons pas un avantage certain. Mais comme je l'ai dit au début, l'effet final dépend de l'encadrement, de l'orientation que nous avons. Et ça fait plus de 10 ans que nous reculons avec différentes appréhensions, cette appartenance à cette union, sans pour autant avoir une stratégie qui nous permette comment pouvons-nous gérer les effets, pouvoir aider les entreprises à pouvoir devenir compétitives, à se préparer à ces marchés-là. Je crois que c'est le déficit de préparation qui dérange.
Mais aujourd'hui, la RDC passe à la tête de ce marché. Comment on peut capitaliser ça, vous, en tant qu'économiste?
Je crois que pour capitaliser ça, il faut d'abord que nous en profitons pour nous doter d'un schéma cohérent dans tous les domaines. Il n'y a pas que la partie industrielle, même dans la partie agricole, pour que notre économie soit compétitive, arrive aussi à améliorer ses niveaux de compétitivité. Je crois que même au niveau du COMESA, il y a des programmes qui sont prévus, il y a même des aides possibles qui sont prévues pour faire en sorte que certains secteurs de l'économie puissent pouvoir se mettre à niveau. Mais le fait qu'on soit à la tête, c'est un défi qui fait en sorte que nous ne pouvons pas aussi être trop à la traîne. Il y a quand même des avancées qu'on peut faire. Mais il y a quelque chose que les gens ne savent pas aussi, c'est que, bon, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui s'inquiètent aussi sur le plan de l'implication sur les recettes, parce que, comme vous le savez, dans nos pays, les recettes douanières occupent une grande partie de recettes publiques. Mais l'impact final de l'adhésion au COMESA sur les recettes est moins grave qu'on l'imagine. Je crois que c'est même en dessous de 10%, parce qu'en réalité, la plus grande partie des produits qui sont importés ou exportés viennent de la région hors COMESA. Par exemple, la Chine est notre premier partenaire en termes d'exportation. Il n'est pas dans le COMESA. Donc, c'est que ces produits-là ne sont pas concernés. Ça, c'est la première chose qu'il faut pour que les gens ne soient pas trop apeurés. La deuxième est que ce n'est pas tous les droits qui sont concernés par cet espace. C'est les droits qui sont des droits des douanes purement. Parce que tous les droits qui sont perçus par la douane ne sont pas des droits des douanes de manière stricte. Parce qu'il y a le droit des douanes et la TVA qui est plus un impôt intérieur. Donc, le produit même originaire du COMESA devront toujours payer la TVA. Donc, et ce qui réduit encore un peu plus l'impact. Mais il faut savoir aussi que ça s'accompagne d'une panoplie de règles, parce que ce n'est pas tout produit qui traverse la Zambie, qui est produit de la Zambie. Parce que c'est là où il y a tout un ensemble de ce qu'on appelle les règles d'origine. Il y a des règles précises pour déterminer si un produit est vraiment originaire du Comesa. Donc, si une structure ne fait que réemballer...
Oui, parce que nous avons même appris que le Rwanda vient de prendre une décision que les populations ne peuvent plus, en tout cas, traverser au niveau des frontières avec le bien ou aller faire de commerce de l'autre côté. Bon, ce n'est qu'une une paire de manches, donc on va faire le débat tout à l'heure, mais il est temps pour nous d'ouvrir les standards. Il y a Arsène qui est à Kikwit, Kasamba à Bounia, et puis Étienne qui est à Guémena. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez également nous rejoindre dans ces débats en composant, bien entendu, les 081 890 6315.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, merci de nous rejoindre. Arsène, vous êtes à Kikwit. Bonjour, Arsène.
Bonjour, Monsieur J.R.
Voilà, vous avez la parole, Arsène, pour commenter cette actualité.
Merci beaucoup pour la parole. Moi, je crois, une fois de plus... Nous avons affaire à des spectacles qui ne nous bénéficient pas directement. Nous dépensons beaucoup d'argent pour des réunions, pour faire un peu le spectacle, comme je le dis. Aujourd'hui, nous allons à la Comesa. Nous avons la présidence. Mais qu'est-ce que nous allons avec en main? Ça, c'est la plus grande question que nous devons nous poser. Comme on le dit ici chez nous vulgairement dans le mot, Maboko Pourlou. Donc, nous n'avons rien entre nos mains. Nous devons plutôt, au départ, chercher à avoir quelque chose en main. C'est quoi? C'est l'industrialisation de notre nation. Comment nous allons industrialiser notre nation? L'industrie actuellement, ce n'est pas quelque chose de spécial comme c'était à l'époque où la technologie était le chasse gardé des nations. Aujourd'hui, la technologie est universelle. Donc, il suffit de 2 minutes sur un ordinateur, vous passez sur Internet, vous avez la facture de toutes les machines qui peuvent composer une industrie.
Arsène, c'est vrai que vous le reconnaissez quand même comme tout le monde qu'aujourd'hui la RDC c'est l'un des pays aussi sous-industrialisés, mais le fait d'aller vers cette intégration régionale, vous ne pensez pas que ça peut avoir un impact positif?
Oui, effectivement, ça peut avoir l'impact qu'il y a, l'impact positif. Ça, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, le problème n'est pas avoir cet impact-là.
Donc, vous, c'est avoir quelque chose en main. Il faut avoir l'industrialisation.
Quand nous allons faire quelque chose, nous devons être compétitifs. Mais nous allons dans cette compétition avec quoi en main? Nous avons la matière grise. Nous avons le matériau. Mais allons-y, travaillons. Comment nous allons travailler? C'est les finances qui nous manquent. Aujourd'hui, nous allons importer, même jusqu'à importer les tractoristes pour faire un trou quelque part pour construire un immeuble ou construire une route. C'est vraiment quelque chose qu'il faut dénigrer. Nous avons notre tractoriste. Comment ça peut-il se faire? Par exemple, je prends cet exemple-là. Comment ça peut-il se faire qu'un petit tracteur agricole est piloté par un Chinois? Juste parce que ce sont les Chinois qui ont apporté ces machines-là. Pourquoi, avec les moyens que nous avons, nos moyens de bord, nous ne pouvons pas nous acheter des machines dont nos techniciens sont capables d'utiliser ici pour, par exemple, le bois. Nous avons le bois. Mais allez-y.
Alors, Arsène, Arsène.
Qui fabrique des triplex.
Arsène, les chefs d'État et de gouvernement, membres de Comesa, ont convenu de la mise en œuvre de l'union douanière. Est-ce que vous n'avez pas d'inquiétude par rapport à ça?
L'union douanière, tout ça revient toujours sur le même point. Qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nos voisins produisent? Que nous avons besoin, nous allons importer chez eux, et ça va donner quelques recettes chez nous. Nous aussi, de notre côté, nous allons amener les nôtres de leur côté, ils vont aussi bénéficier. Nous allons ouvrir nos douanes où nous n'allons pas payer des feux de façon. Tout ça, ce ne sont que des théories qui ne peuvent que s'asseoir sur une production conséquente. Tant que l'Afrique tout entière ne va pas se mettre sur la voie de l'industrialisation, nous ne saurons rien faire, nous allons... Ça a commencé quand, JR? Ça a commencé quand, toutes ces unions ici?
Voilà.
Ça a commencé quand?
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arsène.
La seule chose que nous avons ici, c'est la guerre, ce sont des conflits.
Merci beaucoup, Arsène. Nous prenons Kasamba qui est à Bounia. Bonjour, Kasamba.
Bonjour, monsieur Gilles Longembo. Bonjour, l'invité. Bonjour, les auditeurs de la radio Kassi.
Voilà, vous avez...
Moi, je suis de la suivante.
Oui.
Chaque fois qu'on adhère à une organisation, on ne consulte même pas le Parlement. Et on envoie un pas. les experts pour étudier les côtés positifs et négatifs. C'est comme si le principe qui dit il n'y a aucune médaille sans revers n'existe pas chez nous. D'abord, l'invité, celui qui avait intervenu en premier lieu, vraiment, lui, il n'affiche que l'optimisme. Or, aujourd'hui, nous sommes membres de plusieurs organisations. PAC, SADEC, CPGL, PRGL, mais il faut d'abord faire le bilan de toutes ces organisations-là. Qu'est-ce que notre pays gagne? Il faut se comporter comme la Grande-Bretagne ou la Suisse en Europe. Il n'y va pas comme ça, les dieux permettent. Mais chez nous, une nouvelle organisation arrive, bon, vite, vite, on va là-bas, on organise, comme on a dit mon ami Arsène, on organise des scènes, on dépense tout ça des conférences. Mais pour ce qui concerne les commerçants, nous partons perdants. Moi, je suis à l'est ici. Tous les produits que nous consommons proviennent de pays comme l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie. Nous ne m'envoyons rien là-bas. Quand nos camions reviennent à la dans nos frontières, reviennent avec des produits de l'Est. Mais quand les camions rentrent vers Mombasa, souvent les camions partent vides. Qu'est-ce que nous allons gagner dans cette affaire-là? On parle de suppression des tarifs douaniers. Ce sont les produits de ce pays-là qui viendront inonder notre marché.
Mais Kassamba, nous avons nos minéraux qui sont exportés. Et voilà, ça devait rapporter quelque chose à notre pays. Voilà. Voilà, Kassamba, merci. On va prendre Étienne qui est à Guémena. Guémena, Étienne, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Ado Capri. Bonjour, Victor et Alain Juppé.
Oui, votre point de vue, Étienne.
Ok, merci, monsieur le journaliste. Je pense que cette énième adhésion à une des organisations régionales est une bonne chose. Vous savez, monsieur le journaliste, que la République démocratique du Congo est membre de plusieurs...
Oui, notre invité l'a même dit, oui.
Mais aujourd'hui, monsieur le journaliste, là, à ce qui concerne le COMESA, la RDC a la présidence. Félicitations, parce que la RDC est en train déjà donc, d'enrichir son CV. Et notre inquiétude, mon inquiétude, mon particulière, comme mon frère Arsène Douce, nous allons avec quoi? Pour faire quoi dans le COMESA et surtout que nous avons la présidence. Ce qu'il faut retenir, moi je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, qui a la présidence du COMESA, doit avoir une très bonne politique économique. Donc voir qu'est-ce qu'il peut amener pour le COMESA et aussi pour la République démocratique du Congo. Parce que ce n'est pas seulement qu'on puisse se contacter de la présidence, qu'on est là en tête, mais que son pays souffre, parce qu'on a compris, on a été dans ces péchés, on est dans ces... Dans tout ce qu'on a, on ne voit pas l'impact positif sur la vie démocratique du Congo. Donc, pour cette fois-ci, nous interpellons, nous en appelons aux autorités de la vie démocratique du Congo de capitaliser cette chance, de pouvoir faire grand de sorte que vraiment l'économie congolaise puisse être maximisée, faire de sorte que la vie démocratique du Congo puisse se retrouver. Que le Congo ne puisse pas toujours agir en position de faiblesse, mais que le Congo puisse agir aussi en position de force comme étant président et comme étant un grand pays. Ce ne sont pas les matières qui nous manquent. On a beaucoup de matières.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup. Vous évoquez là la question sur la bonne politique économique qui pouvait nous amener à faire face à cette appartenance donc à la communauté régionale économique. Nous revenons à vous, à notre invité, Zéphirin Chibambejibou. Oui. Vous êtes économiste. Vous avez d'abord suivi la réaction des communs des mortels. Alors, comment vous réagissez par rapport à les réactions?
Non, mais moi, j'apprécie beaucoup ces réactions. Ce sont des réactions tout à fait correctes. Moi, je crois que c'est pas tellement le commun des mortels, mais ils expriment vraiment la bonne réalité. D'abord, de manière générale, tout le monde estime que bon, c'est pas mal d'appartenir à cette organisation, mais on y va avec quoi? On a quoi en main pour que nous ne soyons pas comme des dindons de la farce, donc les gens qui ne vont être que un marché pour cette communauté et nous-mêmes, nous n'apportons rien, nous ne vendons rien. Mais la seule précision que je voulais apporter, c'est de savoir que ne perdons pas toujours, abandonnons cette habitude-là de blâmer les autres. Il faut, comme vous l'avez dit, la responsabilité nous incombe à nous-mêmes. Je crois que si, qu'il y ait comme ça ou pas, si nous-mêmes, nous ne faisons pas la promotion de nos PME, nous ne les renforçons pas, nous ne les aidons pas en finance et en acquisition des technologies, qu'il y ait comme ça ou pas, si nous devons être juste de marcher pour les autres, comme ça ou pas, ils viendront, ils vendront chez nous. Je crois que cette appartenance à Comesa, ça nous crée une opportunité, une incitation à comprendre où nous sommes et où nous devons aller. Et la plupart des faits que des intervenants ont pu relever sont tout à fait vrais. Maintenant, tout le monde parle de l'industrialisation. Évidemment, c'est un concept qui remonte de longtemps. Mm-hmm. Nous venons déjà de là. Vous vous souvenez que tout le monde aime bien rappeler qu'au sortir des indépendances, l'ancienne colonie belge, c'est qu'elle était. Mais concrètement, aujourd'hui, que devons-nous faire pour que nos petites PME que nous avons, parce que c'était ça aussi une des bonnes grandes résolutions du sommet de Comesa, c'est la promotion des PME. Et ça, c'est une opportunité pour nous de voir comment capitaliser cette résolution, comment pouvoir arriver à lever des fonds, à pouvoir avoir des fonds pour les différentes PME dans les différents secteurs qui vont pouvoir être finalement ce qui est une force motrice de l'exportation. Parce que l'industrialisation grande, vous pouvez prendre certains cas précis. Vous avez des brasseries ici qui sont connues, qui sont grandes, mais qui ne sont pas à mesure parce qu'il y a des énormes problèmes de logistique. Avoir leur bière compétitive à Arou, à la frontière avec l'Ouganda ou le Soudan, c'est que nous devons résoudre certains problèmes internes, comme ce qui est déjà en train de se faire, de la logistique des transports qui feront en sorte que même notre marché Congo devienne un marché homogène. Parce que si les transports des produits d'un coin du pays à un autre
déjà, ça pose
vous
problème.
Coûtent plus cher que les transports de ces produits-là de pays frontaliers vers l'intérieur de votre pays, vous pouvez tout faire, vous pouvez avoir le droit de douane le plus élevé, mais le coût du transport peut devenir plus élevé que la barrière douanière. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Et l'autre chose, c'est savoir qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays, le tarif douanier n'est plus tellement vraiment l'instrument par excellence de la protection.
Parce qu'on y est, la douane congolaise est taxée la plus chère au monde aujourd'hui.
Je crois que la plus chère, peut-être pas, mais qu'elle est quand même à des taux généralement quand même...
À cause de multiplicité des taxes.
Le seul problème que nous avons ici, c'est que la douane est plus que la douane, c'est chez nous. Vous avez l'ensemble des taxes que nous prenons. Quand nous avons plus de 300 taxes, nous pouvons avoir plus de 300 là où d'autres pays n'en ont que 4. C'est que nous pouvons même avoir un tarif sur un produit moins élevé que des pays du Comesa, d'autres pays, mais l'ensemble des autres perceptions qui sont faites au niveau de la frontière fait en sorte que le coût dépasse de loin, peut être le triple du tarif officiel. Et ça, c'est un effort qui est fait depuis des années, mais je crois que c'est un effort où nous engageons pas avec suffisamment de fermeté, parce que nous voulons toujours ménager choux et chèvres, faire en sorte que ne pas bousculer telle organisation, telle société. Finalement, nous continuons, et c'est ça qui rend même qui a un impact sur notre productivité, notre compétitivité. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Donc les différentes interventions, l'accent qu'ils mettent sur la promotion de l'activité économique sur place est très bonne. L'accent qu'ils mettent sur le fait qu'on puisse capitaliser la présidence du Comesa est une très bonne chose. Mais toutes ces actions-là devraient déjà être faites à l'interne, indépendamment de l'appartenance au Comesa. Il ne faut pas faire du Comesa l'alibi. Le fait que nous puissions avoir des structures pour promouvoir nos PME, on n'a pas besoin d'attendre le Comesa pour ça. Et que dans chaque province, on puisse identifier quels sont vraiment les PME, quels sont les secteurs qui sont porteurs, qui peuvent être susceptibles de nous générer des produits d'exportation. C'est quelque chose d'important.
Avant de repasser encore de l'autre côté des standards, mais à croire, au fait, au regard du cadre économique actuel, d'aucuns peuvent encore avoir la lueur d'espoir pour dire l'appartenance à la zone libre d'échange, ça pourrait quand même constituer aussi une valeur ajoutée, parce que le cadre macroéconomique, comme on le dit toujours, on a maîtrisé, il est stable, et ça peut être quand même une bouffée d'oxygène.
Bon, ça va. Déjà, l'appartenance en elle-même, nous y appartenons déjà. Là, les gens disent, nous ne venons pas d'adhérer au commissariat maintenant. C'est nous l'avons toujours adhéré, mais simplement, nous n'avons pas mis en œuvre les différents instruments progressifs de démantèlement. Ça peut avoir un impact si nous pouvons, nos entreprises peuvent vendre plus, être compétitif pour vendre plus dans ces marchés-là. Ça veut dire que ça peut améliorer notre compétitivité de ces entreprises parce que, mais en elle-même, elle n'a pas un effet direct sur la croissance en tant que telle si ce n'est pas accompagné par des actions qui puissent promouvoir la production intérieure. C'est une fenêtre d'opportunité. Mais les bénéfices finaux dépendent de la politique que nous mènerons à l'interne pour promouvoir nos hommes d'affaires, pour encourager les petites initiatives, pour faire croître les différentes PME que nous avons afin qu'elles deviennent vraiment compétitives.
Alors on va revenir sur cette politique, le temps de repasser de l'autre côté du standard. Didier est à Lubumbashi, Guillaume Zongo et puis Raphaël à Lubumbashi. Didier, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Didier.
Merci beaucoup. Lorsque nous analysons les buts et les objectifs du COMESA, tels que repris au traité et ses protocoles, hein, vous allez constater qu'il était dans le but de faciliter la suppression des faiblesses institutionnelles.
Allô, Didier ? Voilà, dommage, on n'a plus Didier en ligne. Et puis on va prendre Guillaume qui est à Zongo. Guillaume, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à Gér, bonjour à Magdi, bonjour à Sylvain de Bounia également.
Voilà, vous avez la parole Guillaume.
Oui, oui. Oui,
généralement vous intervenez à Magui, mais aujourd'hui exceptionnellement vous êtes à Zongo.
Oui, justement vous le dites, aujourd'hui je vous capte sinon à
Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Tout le plaisir pour moi et toute la joie que j'éprouve, je voudrais joindre seulement ma voix à ceux qui m'ont précédé. Le vité venait de doute tout de suite. La COMESA n'est pas l'armée des Salis. Les Congolais sont aussi les électeurs de la Banque mondiale et de la FMI. Aujourd'hui, la RDC passe à la tête du COMESA. C'est une bonne chose, c'est une bonne affaire entre les États. Mais voilà la première position. Il faut la confiance entre les États et les opérateurs économiques. Aujourd'hui, avec la COMESA, c'est une collaboration gagnant-gagnante, win-win. Hein? Car ce sont les intérêts qui dirigent le monde aujourd'hui. Même si beaucoup disent qu'aujourd'hui, l'économie congolaise, c'est une économie étrangère. Du fait que les banques sont à 100% entre les mains des étrangers. Tous les espoirs sont permis. Les jeunes se jouent plus dans les ténèbres plutôt que dans la lumière. Je crois que, qu'est-ce que le PIB fait aujourd'hui? Le PIB fait trois niveaux aujourd'hui. Il y a la production, il y a la consommation, il y a l'augmentation. Mais qu'est-ce que la RDC produit? Et qu'est-ce qu'il faut? Moi, je crois qu'il faut renforcer la capacité des nationaux, car les économistes ne sont pas soutenus au Congo. Il faut voir une industrie capable de financer l'agriculture. Il faut définir la politique économique nationale et sociale.
Voilà, si je comprends bien, Guillaume, c'est ça pour autant, ne pas bien interpréter votre intervention, vous rejoignez carrément notre invité qui parlait tout à l'heure de la capacité de nos entreprises d'être compétitives sur le plan international. Donc merci beaucoup, Guillaume, d'avoir appelé. Raphaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Raph. Raphaël, vous êtes avec nous? On va prendre plutôt Guy qui est à Lubumbashi, au Katanga également. Guy, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, c'est Didier, c'est pas Guy Michelosi.
Voilà, Didier, je sais pas, Didier, vous êtes avec nous. Bonjour, Didier.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je disais que lorsqu'on observe l'objectif dans le COMESA chez entreprise, nous allons voir le développement effectif devait passer par la réalisation d'une zone de libre-échange. C'était en 2000. Et union douanière en 2009. Et voir la définition des critères de convergence des politiques macroéconomiques. Mais félicitations pour le COMESA, la création de la zone d'échange préférentiel ZEP, c'était une bonne chose car elle a le mérite de préparer le programme de libéralisation des échanges entre les États. Mais cependant, cette libéralisation est butée à un problème. C'était un problème à l'opposition les États membres moins avancés, comme tout le monde l'a signalé. Par exemple, ici à Lubumbashi, nous constatons sur le marché la surabondance, sur le marché des biens, des produits importés, voire des pays du Kumeysa. Mais la question que je me pose aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons donner à notre voisin, par exemple,
voilà, j'ai fini.
Oui, ce que vous allez proposer au gouvernement, parce que moi je propose, parce que tout ce qui est dit par le peuple n'est pas entendu par le gouvernement, moi je propose ceci, avant même de penser à l'adhésion, c'était une erreur, l'adhésion au commerçant c'était d'abord une erreur, il fallait d'abord mettre fin au bruit des bottes dans la région, après ça penser au développement intérieur de la région, et pas de la région mais du pays, d'abord de la RDC. Aujourd'hui, on ne sait pas évacuer les maïs qui pourrissent à Kabongo, les amener à Lubumbashi, c'est tout un problème. Mais comment allez-vous penser de libéraliser le change entre Lubumbashi, pas Lubumbashi, mais la RDC à la Zambie? Là, c'est une illusion. Après avoir mis fin à la guerre dans la région, je pense nous ça allons peut-être aboutir à un développement collectif intégré dans la zone de Kumeysa. Merci.
Merci beaucoup Didier Zéphirin Tshibambé. C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde veut peut-être se faire une idée très claire sur la politique économique de notre pays. C'est vrai que nous avons adhéré à plusieurs organisations internationales, et surtout dans la région et la sous-région, mais la politique économique actuelle, est-ce qu'on peut vraiment faire face? Ça peut quand même nous aider à aller de l'avant. Parce que c'est ça, pratiquement l'inquiétude des uns et des autres.
Bon, disons que jusque-là, on n'avait pas une politique volontariste au niveau de la promotion.
De peut-être des moyens.
Ça, c'est un peu quelque chose qui est partant. On a une politique qui était un peu centrée sur la stabilisation du cadre macroéconomique. Donc, tout le monde maintenant sait de quoi il s'agit. Ce qui fait que, mais après avoir stabilisé longtemps, la stabilité elle-même de ces cadres ne génère pas la croissance. La croissance au niveau de la production du PME. Vous avez toujours suivi les débats qu'il y a toujours entre le gouvernement et la FEC. C'est que il y a un certain nombre d'actions qui doivent être faites à destination directe de PME, secteur par secteur, de savoir d'identifier leurs problèmes, d'identifier les goulots d'étranglement pour avoir un plan qui permette, secteur par secteur, de pouvoir définir d'où nous venons, quel est le problème du secteur et qu'est-ce que nous devons arriver à avoir. Voilà, si nous nous contentons juste de grands agrégats, nous pouvons être satisfait, alors que finalement l'objectif final c'est d'avoir des entreprises compétitives sur terrain, il est difficile à avoir. Et ça, la première étape qui est simple quand vous, que la plupart des entreprises se plaignent, c'est les niveaux élevés de tracasserie à l'intérieur. Que ce soit de tous les ensembles de services de tracasserie qui fait que pendant que les gens nous parlons bien sûr de commerçants, mais nous-mêmes au niveau du Congo aujourd'hui, nous commençons à avoir des barrières à l'intérieur du pays. Des produits qui quittent l'Équateur pour aller au Bandundu, chaque gouvernement provincial a tendance à instaurer des taxes qui sont comme des mini-douanes à l'intérieur du Congo. Ce sont ces entraves-là qui bloquent même la croissance de ces PME. Alors, nous devons savoir que, si bien que, avec cet accroissement des coûts, que ce soit les entreprises grandes ou les PME, tout ça, ça a un impact sur la compétitivité. Ça devient difficile. Une brasserie qui est au Congo, même qui est à Boma, qui doit exporter en Angola, parce que la bière, ça s'exporte en Angola. Mm-hmm. Les gens croient toujours qu'on n'a rien à exporter. Il y a des choses qu'on peut exporter. Mais si l'ensemble des coûts réels des tracasseries fait en sorte que le produit arrivé à la frontière n'est plus compétitif, vous ne savez pas exporter. Donc je crois que Et c'est là que maintenant que la stabilité du cadre économique est un acquis, qu'on doit maintenant se tourner vers vraiment
la promotion
vraiment au niveau de PME, du secteur productif, de l'emploi, avec un chronogramme et des indicateurs qu'on peut réellement suivre.
On ne peut pas craindre la fermeture des grandes entreprises, parce que là, ça peut avoir des conséquences aussi sur... on va encourager les petites et moyennes entreprises, et entre-temps, les grandes, ça ne pourrait pas avoir un impact.
Généralement, moi, je crois que le principe, c'est le principe de la subsidiarité. Si vous savez résoudre le problème pour le plus petit, nécessairement le plus grand en bénéficiera. Mais si vous voulez vous attaquer juste au problème des grands et vous négligez ces petites-là, finalement vous aurez toujours une économie désarticulée. Sans oublier que c'est dans la plupart de ces petites-là que vous trouvez la plus grande partie de la classe moyenne congolaise qu'on veut promouvoir, et que la plupart de ces grandes, bon, tout en étant, n'ayant rien à voir, rien contre l'investissement étranger, mais c'est le plus grand n'ont souvent pas besoin des grands problèmes de financement. Ils peuvent trouver des financements à l'international, mais c'est ces petits-là qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin d'une réelle volonté d'accompagnement du gouvernement, qui doit prendre l'engagement qui a été pris par les chefs d'État au niveau du commissaire pour la promotion du PME. Il faut la traduire à un engagement.
Oui, parce qu'entre nous soit dit, aujourd'hui, la politique économique, c'est vrai, fait défaut, parce qu'on a l'impression que, comme vous l'avez dit, on a beaucoup plus, on a eu le temps de se focaliser sur la stabilité du cadre macroéconomique, mais on a négligé les petits moyens, parce que, par exemple, le ministère de l'économie, ça s'appelle économie, et je sais pas, c'est l'industrie ou petites et moyennes entreprises, oui. Mais on sent que il n'y a pas d'actions qui sont menées en faveur. Mais je crois que c'est le point de vue aussi des auditeurs. On va revenir à vous, M. Zéphirin Tshibambe Djibou. Vous intervenez ici comme économiste et spécialiste en agri-business. Nous prenons Bénin qui est à Kinshasa et Salomon à Kindu, Franklin à Bukavu. Bénin, vous êtes avec nous, bonjour. Bénin, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà. Bénin, vous avez la parole.
Je voudrais d'abord savoir, poser la question à l'invité, bien qu'il ne soit pas là en train de le présenter comme ça. Quels sont les critères à remplir pour qu'un État soit placé à la tête de l'organisation? Et puis, cette question, c'est derrière l'idée qui me fait croire que passer à la tête de cette organisation doit être le fruit de certaines performances économiques internes qui inspireraient les pays membres à vous placer là pour dire, voilà, comme il est efficace chez lui, il peut aussi nous contaminer l'efficacité au niveau régional. Parce que nous vendons quoi? Tout le monde a dit, qu'est-ce que nous vendons? Quel est le niveau de production agricole, par exemple, que nous avons?
Oui, Bena, parce que c'est une préoccupation directe. Je crois qu'on peut directement donner la parole à notre invité. Restez en ligne, Bena.
Oui, oui. D'abord, pour l'appartenance, il n'y a pas de critères pour l'appartenance. C'est une adhésion dans une zone contiguë. Je crois que du sud au nord de l'Afrique. Alors, y a-t-il des critères pour passer à la présidence? Je ne crois pas. C'est une présidence tournante. Donc, tout pays qui est là a une opportunité d'être à la présidence. Ce n'est pas le résultat des performances particulières. Je crois même que pour le Congo, c'est même à cause de notre retard dans la mise en œuvre de certains instruments que nous vaut cet honneur-là pour nous pousser peut-être à pouvoir
les encourager
à le mettre en œuvre, à piloter nous-mêmes un peu cette transition, parce que la transition entre une économie autarcique fermée vers une économie intégrée régionalement n'est pas toujours facile. C'est peut-être une manière de nous pousser à ça, mais ce n'est pas le résultat des performances passées, c'est une présidence qui est tournante.
Alors, Bena, vous avez la réponse à votre préoccupation.
Ok. Alors, ok, l'invité appelle ça une honneur, moi j'appelle ça une épreuve. Parce que si on remarque que nous sommes en train de traîner les pas et qu'on veut nous encourager à avancer, quelque part c'est aussi un encombrement. Parce qu'au même temps qu'on doit répondre à des préoccupations régionales, en même temps, nous devons aussi chercher nos performances comme déplore tous les auditeurs. Maintenant, je voudrais aussi parler de l'agriculture.
Oui, Bena, tout à l'heure, notre invité a même bien expliqué les choses en disant que l'étape de la stabilité du cadre macroéconomique est passée. Maintenant, c'est l'occasion nous est donnée pour, au fait, encourager et promouvoir les petites et moyennes entreprises. Ça pourrait, constituer aussi une valeur ajoutée dans l'avancement de l'économie du pays.
Ok, je ne voudrais pas avoir ici l'impression de faire un débat, mais je voudrais dire que cette étape de performance économique, cadre macroéconomique, parce que le sujet parle de la population. Lorsqu'on accède à ce marché, quels sont les bienfaits que la population pourra bénéficier? Alors, le cadre macroéconomique du gouvernement congolais est reconnu internationalement comme performant, mais les Congolais, les sociétés des Congolais, le peuple congolais lui-même, accroupi dans le misère. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas un débat, mais je voudrais juste vous donner mes idées. Je voulais parler de, l'agriculture. Nous ne pouvons pas adhérer à ces marchés juste parce que nous avons des ressources minières. Mais je parle de l'agriculture et je vous rappelle que toutes les aides alimentaires qui viennent des États-Unis d'ailleurs pour les pays en difficulté viennent de leurs excédents de production agricole. Maintenant, moi, je me pose la question, en dehors de savoir qu'est-ce que nous allons vendre à la COMESA, je me pose la question, quel est le niveau de production agricole de notre pays qui fera qu'au-delà de la consommation interne, qu'on ait des excédents à vendre peut-être au marché. Voilà la question que je me pose. Et moi, je trouvais que la présidente, comme l'invité l'a expliqué, c'est bien, mais j'avais une idée derrière moi que ce serait un encombrement, parce que, bon, peut-être qu'à notre niveau, où le président lui-même aussi voudrait remplir son CV avec ses organisations, mais l'idée qui est derrière moi, c'est que on devait d'abord nous battre à l'interne, comme un auditeur a dit même que l'adhésion était une erreur, vu la position qu'on gardait.
Et voilà, ensuite, merci beaucoup. Merci beaucoup, Béna. Nous allons prendre Salomon qui est à Kindu. Salomon, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Salomon.
Ok. Merci d'abord pour m'avoir donné la parole.
Oui, oui, rapidement, vous avez une minute. Et
vraiment, pour moi, je félicite d'abord le chef de l'État qui vient d'occuper la présidence de COMESA. Et en ce qui concerne cette union douanière-là, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette union douanière, étant donné que cette union douanière constitue pour la RDC un manque à gagner, car la RDC ne vit que de 70% des recettes des douanes. Mais je ne sais pas, regardons maintenant, qu'est-ce que la RDC produit et qui n'a aucune industrie de transport.
Oui, mais Salomon, vous ne trouvez pas que, comme vous l'avez dit, en tout cas selon vous, que la RDC, en fait, les recettes des trésors publics reviennent que de la douane, dans la plupart. Ben alors, aujourd'hui, en adhérant ou encore en adhérant donc à la zone de libre-échange de COMESA, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait constituer une valeur ajoutée et aussi augmenter nos recettes par rapport à cette union douanière?
Ça peut ajouter moyen à quoi? Parce que la RDC elle-même n'a aucune industrie de transformation. Nous importons tout de l'étranger. En contrepartie, qu'est-ce que la RDC va gagner dans ça? C'est bien de pouvoir adhérer dans des organisations internationales comme ça. Mais il faut voir maintenant en interne qu'est-ce que nous gagnerons après cette organisation-là.
Merci voilà beaucoup, Salomon. Merci beaucoup, c'est Salomon. Zéphirin, c'est vrai, c'est difficile de gérer, de comprendre un peu les appréhensions des uns et des autres. Donc, les gens sont très pessimistes.
Mais non, je crois que c'est depuis toujours. Primo, ce n'est pas une attitude propre au Congolais, c'est une attitude mondiale. Dans tous les pays du monde, les pays qui se sentent un peu en retard par rapport à d'autres hésitent toujours d'entrer dans la communauté. Vous pouvez le voir même dans la constitution de l'Union, que ce soit l'Union européenne, que ce soit dans la NAFTA. C'est une attitude tout à fait normale, cette peur-là d'être avalé par l'ensemble régional. Mais simplement, il faut dire que cet ensemble régional peut être un stimulus, peut être un coup de bâton qui nous pousse à prendre les actions qu'on devait faire seulement. Sinon, nous nous endormons. Si vous construisez un petit mur là, vous ne changez rien dans votre économie à l'interne. Mais pendant, on est quand même un pays cinquantenaire. Ce n'est pas aujourd'hui que les commerçants, on est dans le bloc commercial, ce n'est pas aujourd'hui que nous devons commencer à réfléchir sur ça. Je crois que cette appartenance-là est un peu un coup de semonce qui vient nous réveiller en disant, attendez monsieur, ne dormez pas sur votre laurier, ne commencez pas toujours à vous autosatisfaire, stabilité du cadre macroéconomique, mais en réalité, vous n'avez rien. Essayez de tourner votre regard vers les secteurs vraiment porteurs d'emplois, productifs, stimulez-les, et que nous puissions avoir d'autres critères d'évaluation de l'action économique que les simples critères standards de Bretton Woods. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, ça nous réveille aussi en nous disant, mais vous ne pouvez pas être un pays qui ne compte que sur les recettes douanières. Aujourd'hui, plus un pays se développe, plus moins il compte sur les recettes douanières, et que la fiscalité interne doit prendre le pas sur la fiscalité des portes. Mmh. Et alors, cette expérience du COMESA, c'est un peu comme un prélude au démantèlement qui doit finalement avoir lieu, parce que nous devons être à mesure. Ce n'est pas normal, par exemple, que le droit des douanes que paye, par exemple, un commerçant puisse être inférieur, alors que le bénéfice qu'il réalise par produit dépasse les droits des douanes qu'il a payés. Mais comment se fait-il qu'à la fin, ce qu'il payera à la DGI soit inférieur à ce qu'il paye à la douane? Donc, nous avons vraiment un réel problème de renforcement des capacités de nos administrations fiscales internes qui doivent faire le pas. Peut-être cette adhésion sera encore un coup de fouet encore supplémentaire pour nous permettre de prendre des actions correctrices qu'il faut. Autre chose de dire quand même, que quand un pays importe ce qu'il a exporté, s'il n'a pas exporté, il ne sera pas importé. Donc, il y a quand même de l'exportation. Mais simplement, le problème est de ne pas être dépendant des exportations brutes en termes de bois ou en termes de minerais, mais de pouvoir avoir un peu de la valeur ajoutée à travers des actions communes, comme ce qui est en cours avec le code minier, comme les actions dans les domaines agricoles, dans plusieurs domaines qui pourront faire en sorte que la qualité, la nature de vos exportations change. Mais c'est une action volontaire que nous devons mettre en
mais
place.
Mais le niveau de production, aujourd'hui, un auditeur l'a évoqué cette préoccupation, le niveau de production interne.
Oui, le niveau de production interne est faible. C'est vrai, il est faible. Mais il n'est pas faible du fait du COMESA, il est faible du fait de nos propres politiques. Des autres impondérables qui ont marqué notre histoire, qui font que d'une production qui était très élevée, nous avons eu des dégâts historiques importants, comme la zarianisation, nous avons eu des dégâts autres importants, des pillages, nous avons d'autres dégâts en termes de mégestion et des politiques qui n'étaient pas cohérentes. Mais cette production-là n'est pas nulle. Il y a une base sur laquelle on peut bâtir une action. Parce qu'il y a de l'énergie, il y a des initiatives qui peuvent être encouragées. Ne fût-ce que cette dame-là qui a fait ces robots-là. Mais c'est déjà une PME. Cette dame-là devait
encourager.
Qu'est-ce qu'il a eu déjà comme financement? Qu'est-ce qu'il a eu déjà comme formation?
Elle est passée sur les ondes des radios Capi pour dire que voilà, il n'est pas assisté. On l'accompagne pas.
C'est déjà un exemple du fait que notre politique économique ne s'intéresse pas à stimuler, à transformer les potentialités qu'il y a ici en des opportunités. Parce que si elle était stimulée il y a une année qu'elle a fait cette initiative-là, on aurait des dizaines, des centaines qu'on aurait peut-être déjà exporté au Botswana, qu'on pourrait exporter en Zambie.
Congo-Brazzaville, ailleurs.
Alors, nous, il faut quand même qu'au niveau de la gouvernance économique, on cesse de dormir sur de lauriers pour s'orienter réellement vers des initiatives qui ont un impact sur l'emploi, un impact sur la promotion de l'activité réelle.
Voilà, on va prendre une dernière série des auditeurs avant de conclure avec vous. Zéphirin Chibambe-Djibou, vous êtes économiste et spécialiste en agribusiness. Franklin est à Bukavu, Stéphane Akindou et Kabacha est à Bukavu également. Franklin, vous êtes à Bukavu, bonjour. Oui, ce n'est pas
bonjour
Kabacha.
À notre invité,
oui, c'est
bonjour Kabacha, à tous les Kabacha. Auditeurs de Radio Capi.
Oui.
Je voudrais seulement apaiser les compatriotes qui sont intervenus avant. Moi, je pense que politiquement, la tenue de ce genre d'assises dans un pays traduit la stabilité politique et économique. Il y a quelques années où ce genre de rencontres ne pouvait pas s'organiser en RDC. Mais si nous avions accueilli les sommets de la francophonie, les sommets du COMESA et bien d'autres sommets, c'est vraiment un signal fort que la RDC, notre pays, est en train de retrouver sa place sur le circuit international. Il faut vraiment s'en réjouir, nous ne devons pas toujours être des négativistes. Je reviens maintenant sur la présidence de la RDC à la tête du COMESA. Je pense que sur le plan économique, c'est d'abord une charge. Parce que dans toutes ces organisations, nous devons contribuer. Et souvent, c'est ici où se posent les problèmes. La RDC, pendant un moment, est suspendue dans certaines organisations, seulement parce qu'elle ne s'est pas occupée de ses obligations. Donc, à mon avis, il faut faire les choix. Il est vrai que nous ne devons plus évoluer en vase clos. Mais il faut aussi savoir que nous ne sommes plus obligés d'adhérer à toutes les organisations. Nous devons faire un choix en fonction de nos capacités et en fonction de nos intérêts. Je pense que la présidence à la tête du COMESA, même si nous l'assumons cette présidence, si nous ne sommes pas sincères avec nous-mêmes, c'est-à-dire en termes de nos productions, ça ne sera que de la peine perdue. Par contre, cette présidence peut être pour nous une opportunité de laver l'image que nous avons toujours eu de nous sur le plan international en termes d'organisation. Mais aussi sur le plan juridique, je voulais terminer par là. Sur le plan juridique, je veux évoquer l'article 215 de la Constitution qui stipule que nous devons respecter les accords et les traités internationaux légalement signés. Et donc ici, ça pose aussi le problème. La RDC n'a pas toujours l'habitude de respecter sa signature. Moi, je pense que il y a de quoi à se réjouir, mais il y a aussi de quoi à rectifier. Nous devons assumer que non, parce que l'organisation, notre présidence, notre passage et notre adhésion au COMESA vraiment profite à la République démocratique du Congo. Et donc, nous devons faire le choix en fonction de nos intérêts pour avant d'adhérer dans une organisation. Voilà ce que je voulais dire, JR.
Merci beaucoup, Franklin. On va passer de l'autre côté à Kindou avec Stéphane. Stéphane, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, JR. Je vous remercie pour les contacter.
Vous avez la
moi,
parole.
Moi, je ne voudrais pas revenir sur ce que les amis ont déjà dit.
Oui.
Parce que je vois que réellement, il y a un problème. La commission, c'est bien, mais il y a un problème de répondre au rendez-vous du donné et du
recevoir.
Et pour y aller vraiment ouvertement, il fallait que nous ayons quand même des voies de communication, telles que les routes, le fleuve, aménager notre fleuve, quoi. Parce qu'on ne peut pas évacuer par avion. Ça, c'est très luxueux. Et pour y arriver aussi, est-ce que moi, je place plutôt les rapports qui existent entre morale et responsabilité sociale de tout un chacun. Parce que nous commençons par ceux-là qui ont une parcelle de pouvoir. Et nous aussi, qui n'avons pas de parcelle de pouvoir, nous avons quel type de morale pour que chacun puisse répondre à ces ambitions-là. C'est ça le problème, JR. Parce que pour nos politiciens, Kabila ne peut pas tout faire, même qu'il soit président aujourd'hui au niveau de la COMESA et au pays. Mais nous qui sommes peut-être en province, en chefferie, dans les différents niveaux, il y a des routes de recherche agricole où nous sommes responsables. Qu'est-ce que nous faisons pour relier nos routes de nos villes provinciales, de nos villes chefs-liers? Ça, c'est un problème. C'est là qu'ils sont au niveau même des différentes villes, au niveau des taxations, des bureaux de taxation par exemple. Est-ce que tout l'argent est canalisé au niveau des banques? Les banques aussi ont quel rôle? Il y a la dimension sociale dans ces banques. Quelquefois, j'avais intervenu dans votre radio pour démontrer en quoi même la bancarisation n'était pas toujours installée.
Oui, c'est notre débat.
Pour votre information, jusqu'à ce niveau,
oui.
Il y a par exemple notre banque, je ne cite pas la banque,
oui, allez-y rapidement.
Continue à couper les retraits pour les salaires.
Voilà, merci beaucoup Stéphane. Je crois qu'on va terminer aussi avec Kabacha qui est à Bukavu. Kabacha, bonjour.
Bonjour papa.
Vous avez la parole rapidement.
Oui, on a toujours dit que nous sommes en retard, mais ce n'est pas une question de retard. Mais si vous analysez bien la question, vous allez trouver que ce n'est pas une question de retard, mais c'est plutôt une question de mauvaise volonté politique. Je vais m'y mettre. Voilà, le gouvernement savait bien que nous devons entrer dans différentes zones d'échanges économiques. Mais depuis une bonne dizaine d'années, rien n'est réalisé, rien n'est fait. Alors nous nous demandons pourquoi, chacun doit se demander pourquoi tout cela. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas faibles, ils sont très forts et très intelligents par rapport à nous les auditeurs, nous les savons très bien. Et nous ne doutons pas d'eux. Mais ceux qui sont en train de faire, en tout cas, nous regrettons. Voilà qui devrait avoir des préalables pour entrer dans les différentes zones économiques. Par exemple, les banques doivent être fonctionnelles au Congo. On devrait aussi ouvrir et faciliter les échanges entre les différents centres à l'intérieur
du pays.
Nous devons aussi mettre fin à l'insécurité à l'intérieur du pays et aussi rendre les entreprises congolaises compétitives face à d'autres entreprises, voisines et aussi faciliter les crédits pour les entreprises, les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Assainir aussi le climat des affaires et tout en parlant aussi de la surtaxation. Tout cela, on devrait penser à tout cela. On ne peut pas le faire dans deux jours ou dans deux ans.
Mois.
Mais on devrait le faire depuis bien avant.
S'inscrire dans la durée.
Faute de ne pas le faire, on risque de croire cette chose.
Merci beaucoup.
Je vais aussi finir par ceci.
Merci Kabacha. Merci beaucoup. Merci.
Je devrais finir par ceci, pardon.
Oui, rapidement.
Ok. On a toujours dit, faites-moi la bonne économie, je te ferai la bonne politique. Mais maintenant, où est la bonne économie dans ce pays pour faire la bonne politique?
Voilà.
Tout cela, nous voyons que nous risquons d'être inondés et à submerger par d'autres pays étrangers. Et si vous allez voir, l'équivalent va tourner le dos au Grand Kassai, le Grand Kassai au Bas-Congo, le Bas-Congo va tourner le dos et à la province orientale, parce que chacun aura les intérêts dans les pays qui sont voisins et propres voisins à ce pays.
Merci
et
beaucoup,
là, Karacha. Nous allons voir, nous allons participer à l'émiettement du pays et ce que nous craignons depuis.
Merci beaucoup, donc, Karacha. Merci beaucoup. Alors, monsieur Séphirin Tshibambe Djibo, c'est vrai, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites au cours de cette émission. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Bon, moi je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a les auditeurs ont exprimé des préoccupations réelles, des préoccupations fondées aussi, qui sont, comme j'ai dit, même si on, normalement les préoccupations qu'ont tous les pays qui adhèrent, qui doivent mettre en place des réformes comme celle-ci. Et il appartient au gouvernement de pouvoir y répondre, de pouvoir prendre ce qu'on appelle des mesures de sauvegarde, des mesures de transition, d'encadrement du secteur productif pour qu'il soit en mesure d'être compétitif par rapport à la communauté à laquelle nous adhérons. Un des auditeurs a beaucoup parlé de ces problèmes de contribution. C'est un problème réel parce que c'est vrai, la RDC est connue souvent aussi pour ses retards dans des contributions à différentes organisations régionales. Et je crois que, bon, il faudrait peut-être profiter de cette présidence de la RDC au niveau du COMESA pour pousser un peu plus rapidement cette jonction que la COMESA devait faire avec le SADC pour ne pas arriver à contribuer deux fois. Alors dans une structure qui est pratiquement de la même région et à pouvoir rationaliser un peu parce que c'est réellement c'est aussi un coût. Mais comme on l'a dit et je crois que c'est le résumé, c'est que ce n'est qu'une fenêtre d'opportunité, mais il dépend de nous de tous à tous les niveaux en partant du gouvernement de pouvoir faire de transformer cette opportunité en réalité. Et que, bon, que si on n'y prend pas garde, évidemment, nous n'en tirerons pas tous les bénéfices qu'il faut. Mais il n'y a pas de quoi avoir beaucoup plus peur de comme le dernier orateur a dit, que ça peut tendre vers une certaine implosion. Mais le plus important, et c'est là qu'il faut encourager les grands travaux d'infrastructure qui sont faits, il doit être plus facile de joindre Kinshasa et Bukavu. Si nous pouvons faire en sorte que les grands voies de jonction entre provinces, en partant par la grande voie d'eau qui doit être assainie et équipée, les voies routières, les voies, si ces gros investissements sont faits, ce qui aujourd'hui apparaît comme une faiblesse deviendra une grande source d'opportunité. Ce qui fait que les gros investissements en infrastructure sont capital pour que finalement cette fenêtre d'opportunité se transforme en réalité.
Je suis Réa Tshibambe, merci d'être de notre aujourd'hui. Nous rappelons que vous êtes économiste et spécialiste en agribusiness. Et merci d'avoir fait le déplacement de ce studio. Ça ne sera pas la dernière fois. Je crois que la prochaine fois, on pourra vous inviter encore pour d'autres sujets économiques. Merci.
Merci beaucoup.
Voilà, nous disons également merci à vous tous qui avez suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Nous prenons rendez-vous avec vous demain. La loi relative à la conservation de la nature vient d'être promulguée. Nous en parlons demain avec le responsable du ministère de l'Environnement. Donc prenez rendez-vous avec nous pour demain. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.